Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Qui dit la loi congolaise à propos du construction anarchique, en RDC, les constructions anarchiques sont érigées dans plusieurs villes du pays. Pourtant, dans la plupart des cas, leurs propriétaires possèdent des documents légaux et bien souvent, ces constructions anarchiques finissent par être démolies, ce qui fait suite à des graissements des dents de pleurs. On a plusieurs fois assisté à ces spectacles et donc vous êtes intéressé par le sujet. Appelez-nous dès maintenant au 081-890-63-94 ou faites-nous un SMS au 081-711-50-01. Notre invité, Maître Kabengela Ilunga Vokobaro de Matete, est ici avec nous dans ces studios pour répondre à vos questions. Maître, la première question qui nous vient à l'esprit, avant d'en arriver à ce qu'on a toujours assisté comme phénomène des démolitions, qui dit la loi à propos des constructions anarchiques?
La loi congolaise, nous citons la loi du 20 juillet 1973, telle que modifiée par celle du 18 juillet 1980, portant régime général de biens, régime foncier immobilier, régime de sûreté, interdit que l'État ou un concessionnaire puisse se rendre justice à soi-même lorsque l'État ou le concessionnaire se trouverait en face d'un constructeur, soit de bonne ou de mauvaise foi, ou en face de quelqu'un qui aurait construit sur sa propre concession avec les matériaux appartenant à autrui. Nous avons pour cela trois dispositions de la loi précitée qui donnent la position à suivre. Avec votre permission, nous pouvons, pour l'intérêt des auditeurs de la radio Okapi, lire ces trois dispositions. Peut-être ça va les édifier. L'article 22 de cette loi dit « Le concessionnaire qui a fait des constructions, ouvrages ou plantations avec des matériaux ou des végétaux qui ne lui appartiennent pas doit en payer la valeur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts s'il y a lieu, mais l'ancien propriétaire de matériaux ou de végétaux n'a pas le droit de les enlever. » L'article 23 dit ceci, « Lorsque des constructions, ouvrages ou plantations ont été faits par un possesseur de bonne foi avec des matériaux ou des végétaux lui appartenant, l'État ou le concessionnaire du fonds ne peut en exiger la suppression. Il doit rembourser au possesseur soit la valeur des matériaux ou des végétaux et le prix de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en est résultée pour le fonds. Si celui qui a fait les travaux est un possesseur de mauvaise foi ou un détenteur précaire, l'État ou le concessionnaire a le choix ou d'exiger la suppression de construction, ouvrage et plantation aux frais de l'auteur et les dommages et intérêts s'il y a lieu, ou de rembourser soit la dépense, soit la plus-value qui, comme il est dit plus haut. C'est vous dire que notre loi empêche l'État ou les concessionnaires qui trouvent que sur le fonds qu'ils réclament, il y a quelqu'un qui a construit, de pouvoir procéder à la démolition. Et la démolition, s'il peut y en avoir, doit être l'œuvre ordonnée par le juge. Mais l'État, dans ses structures, ne peut pas se rendre justice à soi-même. Parce que, comme vous savez, parmi les démembrements de l'État, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée, il y a les cours et tribunaux. Et à chaque institution, la Constitution a dévolu des missions spécifiques. Il n'appartient pas au Parlement de voter une loi ordonnant la démolition des constructions dites anarchiques. Il n'appartient pas au gouvernement de dire que telle constitution est anarchique. Cette mission revient aux cours et tribunaux. C'est cela que dit l'article 24, qui dit ceci. Lorsque l'État ou le concessionnaire d'un fonds, en y faisant une construction ou un ouvrage, a empiété de bonne foi sur le fonds du voisin, celui-ci ne peut exiger la suppression de l'empiétement s'il est établi que le dommage qu'il éprouve est notablement inférieur à celui que les constructeurs subiraient par la suite de la démolition. En ce cas, le juge, il est bien dit, le juge, pas le gouvernement, pas le gouverneur de province, pas le parlement, c'est le juge attribue l'empiètement au constructeur à titre des droits réels moyennant une indemnité à payer aux voisins.
Mais maître, permettez-moi de vous arrêter à ce niveau parce que là, il faudra bien vraiment qu'on fixe les idées. Vous avez dit, il appartient aux cours et tribunaux de prononcer
si tel constructeur est de bonne ou de mauvaise foi et d'ordonner la démolition.
Cela ne revient pas à
l'administration, au gouvernement, au parlement, non.
Mais maître, comment ça se passe alors? Parce que avant d'acquérir un terrain et puis de commencer à construire, à quel moment on va se rendre compte que c'est une construction anarchique? Parce que bien souvent, on assiste à des constructions, on a vu comment elles ont commencé, on a vu comment on a dressé des maisons qui sont livrées même en étage, et après on vient démolir. C'est-à-dire que celui qui va acquérir un terrain et qui va se mettre à construire, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir du garde-fou? Parce que là généralement, il y a même certains, j'ai pas cité des endroits qui me chassent, il y a des endroits où les maisons ont été démolies, et après on a vu d'autres personnes construire aux mêmes endroits, et les maisons sont jusqu'à présent, donc c'est un peu de la confusion tout ça.
Oui, là, nous pensons que l'État est responsable de tous les dommages subis par la population, parce que en amont, il y a l'administration qui contrôle, qui délivre même les titres de propriété. Il n'est pas concevable dans un État qui s'est dit de droit qu'on puisse assister à des démolitions de maisons construites par des personnes détenant des titres de propriété, des titres de concession perpétuelle ou ordinaire. Et lorsque, après avoir démoli, vous voyez maintenant les grands possédants acquérir le même terrain. Mais on ne sait pas. Donc nous assistons ici dans notre pays à ce que nous pouvons appeler l'urbanisme anarchique et non de construction anarchique. Vous voyez partout dans un quartier résidentiel, vous verrez l'administration donner l'autorisation à une entreprise industrielle d'ériger son industrie là-bas. Donc, c'est incommode. Alors, si aujourd'hui l'État constate que telle population érige des habitations et que cet espace-là peut répondre à un besoin d'intérêt public, notamment un service public peut être bien implanté là-bas, c'est tout à fait normal que l'État, au lieu de procéder par des démolitions, procède par l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or, l'expropriation ne peut pas se faire sans indemnité préalable. Donc, l'État doit maintenant évaluer le bien à exproprier et payer préalablement aux détenteurs la plus-value pour que l'espace lui soit finalement accordé. Mais ce n'est pas cela auquel nous assistons dans notre pays. On peut dire que nous sommes dans une délinquance politique et administrative où les populations sont tout à fait, justement, victimes des actes de l'administration, en amont comme en aval.
Maître, on vous retrouve tout à l'heure. On a déjà deux invités en ligne. Soyez tout moi. Nous appelons de Bukavu dans le sud Kivu, Kwembe et Taïsiro dans la province orientale. Soyez tout moi. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, justement, moi, je dis que les constructions anarchiques sont l'œuvre de la complicité des autorités. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vient, il part à la division de l'habitat et de l'urbanisme, il acquiert des documents comme il faut. Bon, on lui affecte un terrain, bon, d'avant, le terrain est inaccessible, mais à la division, on lui dit, on lui vend un terrain. Et quand il construit, et ce sont les mêmes autorités par rapport qui vont dire que le terrain ne peut pas être exploitable et qui reviennent encore, par exemple, on ne sait pas même par des manigances qui viennent encore démolir les maisons qui ont été construites. Pourtant, ce sont l'œuvre, cette construction est l'œuvre de cette manigance qu'ils ont commise. Et vous allez vous rendre compte que, bon, cette anarchie, bon, ils le font sans une moindre inquiétude. Et surtout, ça, cette anarchie, ils le font pour, disons, pour le faire commission. Parce que vous allez vous rendre compte que, dès le départ, ils ont des mesures, ils ont des lois, ils ont des arrêtés qui ont été signés en bonne et due forme, qui interdisent des terrains marécagés, des terrains, disons, à forte pente, qui ne peuvent pas, disons, accueillir des constructions. Mais ils s'en foutent de tout ça. Ils vont donner, ils vont donner des permis, des constructions. Vous allez vous rendre compte que quand, parce que moi, je fais un exemple ici à l'est de la RDC. Vous allez vous rendre compte que si les plans insécurité, les gens quittent des milliers d'euros, ils arrivent en ville sans moyens. Bon, surtout, moi, je n'ai pas dit, moi, les études, parce que ceux qui ont étudié, ceux qui n'étudient pas, n'ont pas étudié, sont dans le même train. Vous allez rendre compte qu'il arrive dans la ville, n'a pas de moyens, et si par chance il trouve des 100 dollars, 300, ça dépend de la façon, du montant qu'il va trouver, il va nécessairement se tailler une petite portion de terre. Il va construire, il ne va pas tenir compte de la, disons, de la situation dans laquelle se trouve le terrain, il construit. Bon, avec demain, bon, c'est courage des autorités, mais par rapport, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes autorités qui vont encore revenir, ils vont dire, le terrain ne peut pas être construit, on ne peut pas y construire des maisons. Et d'un coup, ils vont demander, vous allez vous poser même la question que les maisons qui ont été construites, c'est que les propriétaires n'ont pas été indemnisés, et ça se passe de cette manière, les gens sont dans la rue.
Merci, c'est on a compris. On va aussi accorder la parole à Kombe Siro, qui est un professeur oriental. Merci, l'invité va commenter par rapport à vos préoccupations de tout à l'heure. Soyez Kombe, vous êtes à Isiro, en province orientale. Bonjour, Kombe.
Bonjour à la radio Cartier. Bonjour à notre invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Ma question est celle-ci. Si quelqu'un a acquis un terrain dans une concession qui n'a pas été encore loti et que suite à l'agrandissement de la ville, il craint qu'un jour il soit frappé d'une mesure qui pourra, pourra récupérer son terrain peut-être pour un lieu public, une police, un marché. Alors avant que le lotissement se fasse, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'un jour, s'il y a lotissement dans cette concession, que son terrain ne soit pas récupéré?
Merci Kwembe. L'invité va vous répondre tout à l'heure. Vous appelez donc d'ici au Rouen, province orientale. Que dit la loi congolaise à propos des constructions anarchiques? On en parle donc avec Maître Kabengela Ilunga. Il est avocat au barreau de Matete. Vous êtes intéressé par le sujet. Vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages. Appelez-nous au 081-890-63-94 ou faites-nous un SMS au 081-711-50-01.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Voilà, maître, nous avons eu la. Pas la question, mais plutôt. Soyez tout moi qui a un peu commenté dans le même sens que vous, hein, parlant qu'il y a un peu désordre dans ce que vous avez appelé urbanisme anarchique, dont vous allez commenter par rapport à tout ce qu'il a dit, mais également Kwembe qui demande qu'est-ce qu'on peut bien faire. Ça, c'est comme garde-fou lorsqu'on a, il y a un lotissement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme garde-fou pour s'assurer qu'après on ne va pas parler de construction anarchique?
Oui, le deuxième intervenant m'intéresse. Donc nous devons préciser ceci, que l'État n'est État que lorsqu'il existe d'abord un territoire donné. Sur le territoire, il doit y avoir une population, et sur ce territoire et cette population doit s'exercer le pouvoir public, le pouvoir politique. C'est dire que avant même les formalités des lotissements, la population est supposée être sur le territoire. Là où l'individu se place, si c'est ça, donc son milieu naturel, il n'y a pas de crainte de dire qu'un jour on risque d'être démoli par le gouvernement, étant entendu que le principe est que toutes les terres de notre territoire sont du domaine privé de l'État, donc que l'État peut concéder au privé. Et pour qu'une terre appartienne au domaine public de l'État, il faut un acte affectant telle partie du territoire à un service public ou à un usage public. C'est-à-dire qu'il n'a pas de crainte de dire qu'un jour, ben, si jamais cela arrivait, l'État doit l'exproprier en disant, monsieur, madame, vous avez construit sur cette portion de terre, mais l'État en a besoin pour construire un hôpital, pour construire une route, un chemin de fer, et nous allons évaluer votre construction, à combien ça va nous revenir, à combien ça va revenir, et on va vous payer en numéraire la valeur de votre construction pour que vous puissiez occuper un autre territoire. Cela est prévu par la loi. Mais là, démolition, sans frais, sans paiement des indemnités préalables, c'est une délinquance.
Est-ce que ça peut paraître sage, avant de lorsque un lotissement, avant de s'engager, d'aller peut-être se renseigner auprès du service de cadastre
oui.
Pour savoir
Lorsque vous avez d'abord votre territoire, votre portion de terre, si vous voulez être couvert par le titre de propriété, vous faites une demande auprès de services concernés.
Une demande de terre.
De terre, et après la demande de terre, on va vous donner le contrat de location. Après le contrat de location, vous aurez une période en ayant laquelle vous allez mettre en valeur la portion de terre que vous concédez. Et si la mise en valeur est suffisante, le conservateur de titres immobiliers va procéder maintenant à conclure avec le demandeur un contrat de concession perpétuelle qui sera suivi, bien entendu, du certificat d'anciennement qui va constater les droits concédés.
Omar Kigalo nous appelle de Kinshasa, dans la ville, donc la ville province de Kinshasa. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour Marcel Ngombo.
On vous écoute, Omar.
Merci beaucoup Marcel, je remercie aussi Maître Kabengela.
Merci.
Bonjour Maître.
Bonjour monsieur.
Alors, j'ai suivi son analyse, je suis très content. Avant de poser ma question, je voudrais que le maître ne se limite pas à l'empiètement. Parce que l'empiètement n'est pas le seul cas de construction anarchique. Parce que l'empiètement suppose une personne qui construit sur un terrain qui ne lui appartient pas. Je voudrais aussi voir les cas de l'article 204 alinéa 2 qui dit « Tout contrat contraire aux impositions impératifs d'ordre urbanistique ». Il peut arriver que quelqu'un achète un terrain de façon régulière mais que ce terrain ne soit pas dans les normes urbanistiques. Alors, je voudrais que Maître me dise, dans ces cas, quelle est la conséquence juridique.
Merci.
Parce que dans les cas de l'empiètement, c'est clair, vous avez construit sur un terrain qui ne vous appartient pas.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi des cas où vous construisez dans les normes non environnementales.
Mm-hmm.
Alors, deuxième question, je voudrais savoir quelle est la conséquence que la loi réserve aux conservateurs. Parce que moi, j'ai toujours dit, la seule autorité qui octroie les terrains, c'est l'autorité, c'est-à-dire les conservateurs. Donc, s'il y a de tels cas qui arrivent, des gens qui n'arrivent pas à bien construire, il faudra d'abord voir la base. Y a-t-il des sanctions que la loi reconnaît aussi à l'égard des conservateurs? Parce que j'ai seulement vu l'article 244 qui dit que les erreurs commises par les conservateurs reviennent à l'État. Ça, c'est sur le plan civil. Sur le plan pénal, Maître Kabengela, quelles sont les sanctions qu'on peut attribuer à un conservateur qui octroie des terrains où il sait que ce terrain n'est pas facilement construisable. Merci beaucoup Marcel et je vous en remercie.
Merci Omar Kigalo. Maître Kabengela va vous répondre tout à l'heure. Nous restons à Kinshasa pour accueillir Lamba. Bonjour Lamba.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je voudrais être abondé dans le même sens que notre auditeur de tout à l'heure. Mais mon aspect porte beaucoup plus sur celui qui a acheté, sur celui qui achète, que dans le cas du cimetière de Kintsuka. C'est pas sexuellement, c'est vraiment macabre, c'est vraiment désolant parce que on achète, je ne sais pas, chez n'importe qui et on détruit le corps. Parce qu'en passant, une fois là, j'ai vu le corps à l'extérieur. Alors je me dis, c'est là qu'ils viennent démolir le corps pour construire. Il n'y a pas aussi des sanctions réservées à leur endroit. C'est ça mon intervention.
Merci Lamba. Maître Kabengela va également vous répondre tout à l'heure. Il est temps pour nous d'aller du côté de Vira, dans le sud Kivu, pour donner la parole à Boutoto 7. Boutoto, bonjour. Bonjour Boutoto
oui,
7.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
On vous
bonjour.
Écoute. Boutoto,
oui,
allez-y.
Oui. Oui. De demander au juste. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Quand est-ce qu'on va démolir sans indemniser les propriétaires de la maison? C'est la première question. La deuxième, on a assisté ici chez Vima, on démolissait des maisons alors que le propriétaire avait tous les titres, tous les documents possibles de quoi des cadavres, mais on n'a rien indemnisé. Alors on se demande est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire ou comme ça que prévoit la loi ou quoi? Je veux un peu d'éclaircissement en cela.
Merci Boutot-Ossette. Vous êtes donc à Ouvira dans le sud Kivu. Il y a un autre auditeur qui est en ligne, c'est Jafet qui est à Kananga dans le Kasai occidental. Jafet, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ma question c'est celle de savoir. Hein. Souvent, la construction anarchiste est refusée par la loi. Mais que faire pour vulgariser cette loi-là au niveau de nos sociétés ici? Parce que souvent, beaucoup de gens ne connaissent pas les règles de la construction et l'achat d'un terrain. L'invité peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vulgariser cette loi-là, pour que ça puisse être à la portée de tout le monde.
Merci, Jafet. Vous appelez du Kananga dans le Kasai occidental, Maître Kabengela Ilonga.
Merci. Le premier intervenant m'a beaucoup intéressé.
Omar Kigalo.
Oui, oui. Sur les constructions contre l'urbanisme. Que faire? Je pense que tout est problème de ceux qui délivrent les titres de propriété. Lorsque vous savez que telle partie ne peut pas être habitée, ne peut pas constituer un quartier résidentiel, le conservateur ne peut pas émettre des titres de propriété. Et si malgré cela, un individu se met en ce moment-là, nous allons assister à un résident sans titre. Donc, deux situations. Un résident sans titre, de prime abord, nous pouvons le considérer comme un constructeur de mauvaise foi. Mais il n'appartient pas à la Radio Okapi, à Maître Kabengela, de dire que tel monsieur est un constructeur de mauvaise foi. Je l'ai dit au début, l'État ou quiconque a des prétentions de considérer tel individu comme constructeur de mauvaise foi doit saisir les cours et tribunaux qui ont reçu la mission de juger des prétentions des uns et des autres. Et c'est à la suite d'un jugement qui établit que tel constructeur est de bonne ou de mauvaise foi que le même jugement va ordonner la destruction. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Lorsque le constructeur est de bonne foi, vous pouvez garder la construction, mais en lui donnant maintenant, en lui payant les impenses. Si vous ne gardez pas la construction, vous dites, monsieur, vous pouvez détruire, mais à vos frais. Mais tout ça, il faut établir la bonne ou la mauvaise foi. Sanctions contre le CTI, et cela dépend, la loi nous permet d'attaquer tous les actes du conservateur des titres immobiliers devant la justice. Mais s'il arrive que dans l'examen de comportement du conservateur, que celui-ci soit trouvé en charge pénale, il y a aussi une procédure pénale qui est possible contre les actes du conservateur. Donc, en amont, c'est le conservateur qui doit jouer un grand rôle parce qu'il est en même temps un conseiller et c'est lui qui délivre les titres. Destruction des tombes, là, nous sommes dans un domaine autre que le domaine pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Il s'agit là des infractions, donc outrage aux morts, destruction des tombes, c'est des infractions punissables par la loi congolaise. Quand est-ce qu'on peut démolir sans indemnité? Oui, on peut démolir sans indemnité, mais à la suite du jugement. Il n'appartient pas, je le répète, au gouvernement, au parlement ou à quiconque d'établir que telle personne est un constructeur, est une constructrice de mauvaise foi. Dès que le tribunal établit la mauvaise foi, il va ordonner que le constructeur de mauvaise foi puisse enlever ses constructions. Et en ce moment-là, il n'y aura pas d'indemnité. Mais si celui à qui appartient le fonds, donc la parcelle, que ce soit l'État ou que ce soit un tiers, dit non, non, ces constructions-là ont eu certaines valeurs, je puis les conserver. En ce moment-là, le concessionnaire ou l'État conserve les constructions, quitte à lui maintenant de payer les impenses à celui qui avait construit les immeubles. Comment faire pour vulgariser la loi? Nous avons une disposition dans la Constitution qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et dès lors que la loi est publiée au journal officiel, elle est censée être connue de tous. Mais cela, la faiblesse de notre système, parce que la plupart des lois se limitent ici à Kinshasa et en province, on ignore les sanctions. Et je pense aussi que c'est ici où il faut saluer l'effort de la Radio Okapi Service, qui invite des gens dans de divers domaines Et à partir des émissions pareilles, la population est informée de ses droits et de ses obligations.
Voilà, maître, nous avons des réactions qui nous sont parvenues par SMS. Il y a Benny qui nous écrit de Oisha. Il dit ceci, qui a qualité de démolir une construction anarchique dans une cité où le cour et tribunaux n'existaient pas? Il y a également Blanchard Luana qui écrit, quand on démolit une construction anarchique, est-ce que les victimes doivent-elles forcément bénéficier d'une indemnité? Si oui, à quoi servira alors les principes? Nul ne peut ignorer la loi. Au cas où on achète volontairement un pain de terre se trouvant dans un site universitaire.
Merci. Compétence de nous lire. Ça appartient au service d'exécution d'une juridiction, d'un tribunal. Cela à la suite d'un jugement. Le tribunal qui ordonne la destruction, ce n'est pas celui qui a gagné. Le jugement qui doit descendre et dire « Monsieur, tu avais construit sur ma parcelle, je détruis ». Ça n'appartient pas au gouverneur d'aller détruire. Les huissiers de justice vont sommer l'individu qui avait construit à pouvoir démolir. Mais s'il y a résistance, c'est alors que les huissiers vont maintenant avoir l'appui des services de l'ordre public, donc la police, pour les accompagner afin de procéder à la démolition. Mais ici, chez nous, vous constatez souvent, c'est un gouverneur qui se réveille, c'est tel ministre qui se réveille un jour avec force de l'ordre, descendre chez quelqu'un, on démolit, on ne tient pas compte des enfants qui sont scolarisés, savoir. Et l'État ne prend aucune disposition pour dire dans cette maison il y avait combien d'enfants scolarisés, il y avait combien de personnes de troisième âge, aucune disposition n'est prise. J'ai assisté à une démolition à Massina où on a démoli et les enfants de retour de l'école ne savaient où se trouvait leur maison et où ils pouvaient attendre leurs parents. Et c'était vraiment cynique. Et on comprend même que les gens criaillaient en disant bon.
Mais maître, bien souvent, l'État se cache derrière le prétexte qu'ils ont eu plusieurs avertissements, mais bon, ils n'ont pas obtempéré. Qu'ils étaient déjà avertis bien avant de quitter les lieux, mais bon, ils se sont entêtés.
Avertissement lancé par qui?
Ah, c'est ça justement, oui.
Bon, parce qu'il ne faut pas seulement, quand vous lancez l'avertissement, l'individu vous dit, c'est ma parcelle. Déjà, il y a un conflit de prétentions. Tel dit, c'est ma parcelle, l'État dit, non, vous ne pouvez pas être là. Mais qui doit trancher? C'est le cours des tribunaux. Lorsque vous avez déjà de conflits d'intérêts, il n'y a que le cours des tribunaux qui peuvent trancher, disons, c'est l'État, en tant que pouvoir puissance publique, qui a raison, ou soit c'est l'individu. Parce que les lois ont été prises pour résoudre tant les conflits entre les privés qu'entre le privé et le public, ou entre l'institution publique elle-même. Donc, nous devons cultiver, avoir la culture du droit. Les animateurs de nos institutions, les gouvernants doivent avoir la culture du droit et savoir respecter les institutions du pays. Donc, un gouverneur, un gouvernement, un administratif ne peut pas s'arroger le pouvoir, les attributions réservées aux cours des tribunaux.
Que dit la loi congolaise à propos des constitutions anarchiques? Nous en parlons au cours de cette émission Capi Service avec Maître Kabengela Ilunga. Il est avocat au barreau de Matete. Réagissez donc en appelant au 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages. Vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Yungola et Takindu dans le Maniema. José Mouchini, lui, se trouve à Kamina dans Lukatanga. Clément et Gabit à Arou en province orientale. On commence donc avec Longola. Longola, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, j'ai des questions à poser à l'invité. La première question est celle de savoir si l'État distribue des parcelles au cimetière. Dans ce cas-là, le bénéficiaire sera indemnisé. Et la deuxième question est celle de savoir si les cimetières sont occupés par la population. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a construction anarchique? si c'est oui, et que l'invité me dise, et si c'est non, l'invité peut me dire. Aussi, dans ce cas-là, est-ce que si l'État distribue les cimetières, les parcelles au cimetière, est-ce que l'État peut être puni par la loi ou s'il ne peut pas être puni par la loi? L'invité peut me dire à sa mère.
Merci, Longola. José Moucheni, vous êtes à Kamina dans le Katanga. Bonjour, José.
Bonjour, bonjour Radio Capti.
Je
suis très heureux d'intervenir à cette émission parce que j'ai un conflit parcellaire très fraîchement là. Nous sommes devant les services compétents, les cadastres. Il y a 13 ans que le cadastre a loti un site. Maintenant, il n'y a que cette année, il y a eu un conflit. Je voudrais savoir réellement s'il y a un piétement ou pas. Parce que cadastre est venu. Moi, je ne garde, je suis couvert par un contrat de 1750 m². Alors, le voisin qui a déclaré qu'il n'a pas sa superficie normale, il a empiété la route, la voie publique. Alors, pour quitter, le faire partie de la voie publique, je dois perdre 9 m sous prétexte que j'ai empiété sa parcelle. C'est-à-dire que c'est le 9 m que lui doit perdre parce que tout en étant sur la voie publique. Est-ce réellement il y a empiétement ou pas? Deuxième préoccupation, parce que dans le 9 m là, c'est ma maison qui doit être démolie. Ça doit être au frais de qui? Et quelles sont les procédures à respecter avant de démolir? Merci beaucoup.
Merci à José Moucheni. Maître Kabengela va vous répondre tout à l'heure. On vous garde encore en ligne. Peut-être que l'invité aura des précisions par rapport à votre problème. Clément Igabé, vous êtes à Rouen, province orientale. Bonjour Clément.
Oui, bonjour.
On vous écoute Clément.
Oui, merci vraiment de m'avoir associé à ce débat. J'ai une préoccupation à poser à notre invité.
Allez-y. Allez-y, Clément.
Oui. Oui. Je voudrais savoir quelle procédure peut-on suivre pour pouvoir aménager sa présidence les habitants des groupements incorporés ou soit les villages périphériques qu'on veut urbaniser. Quelle procédure peut-on suivre? Merci.
Merci Clément et Gadi. Maître, on pourrait bien commencer par José, qui doit être encore en ligne, mais fait signe la réalisation.
Problème de contrat de son voisin qui a empiété sur la route. Je pense que notre auditeur, notre compatriote, pose une question que seuls les cours et tribunaux peuvent facilement apprécier souverainement. Ici, nous n'examinons pas de cas d'espèce, nous posons le principe pour pouvoir orienter les auditeurs à pouvoir savoir à quoi s'en tenir. Et si jamais il y a démolition, donc, c'est-à-dire l'État aura trouvé que lui aurait pris empiété sur la parcelle de l'autre. Mais si c'est son voisin qui a empiété sur l'emprise publique, bon, je pense que seul le cours des tribunaux, au moyen de la descente, parce que cette matière maintenant nécessite que le tribunal descende, constate avec le géomètre du cadastre quelle est la situation réelle sur terrain. Donc nous ne pouvons pas vraiment ici, maintenant, commencer maintenant à résoudre sa question, que seuls les juges sont compétents pour réserver une suite.
Voilà, José, vous avez donc suivi la réponse de notre invité. Donc, faites confiance aux cours et tribunaux de chez vous, là-bas, Kamina dans le Katangas. Donc, c'est à eux que reviennent de traiter ces problèmes.
Peut-être, le maître, je pouvais encore penser une petite question de clarté. Hein?
Oui.
C'est-à-dire, ça va entraîner tout un bloc, revoir le plan cadastral. Parce qu'il y a une erreur technique du cadastre. Ça va incomber sur qui? Parce que ça demande à ce que nous puissions revoir vraiment le plan cadastral et d'aménager tout un bloc.
En ce moment-là, l'administration pourra avoir une responsabilité à pouvoir vous restituer. Si jamais le cours des tribunaux trouvait que l'administration devrait récupérer une partie, en compensation, l'État devrait vous indemniser de la partie que vous allez subir comme perte. Je pense que le juge, lorsque vous allez leur exposer vos motifs, pourront aller dans ce sens-là.
Voilà, maître, on va revenir sur le... Maintenant, on va revenir sur l'Angola qui a encore parlé de cette question de construire dans le cimetière. En fait, quand est-ce qu'on peut construire dans un cimetière? Lorsqu'il a été désaffecté, il faut d'abord bien se renseigner si ce cimetière a été désaffecté.
Voilà. Donc, nous avons parlé ici du domaine public de l'État, c'est-à-dire les parcelles qui sont affectées à un usage du public ou à un service public. Le cimetière constitue un territoire destiné à un service public pour les inhumations des personnes décédées. Lorsqu'on désaffecte un cimetière, en ce moment-là, le territoire occupé jadis par le cimetière rentre dans le domaine privé de l'État et l'État peut maintenant concéder des parcelles à des tiers. Alors, ceux qui construisent là-bas, est-ce qu'ils construisent anarchiquement? Il faut distinguer. Si vous construisez avant l'acte de désaffectation, vous faites une construction anarchique. Mais si, après l'acte de désaffectation, le conservateur des titres immobiliers parvient à lotir le territoire jadis occupé par le cimetière, il n'y a pas lieu à parler de construction anarchique. Procédure à suivre pour préserver le village qui occupe un territoire. Je pense que la loi a prévu, même a consacré l'occupation par le village d'un territoire. On parle de peuples autochtones, de peuples indigènes qui occupent un territoire. Comme j'ai dit auparavant, il n'y a pas d'État sans territoire, il n'y a pas d'État sans population résidant sur un territoire. Donc, si jamais l'État pensait entreprendre des travaux, soit de recherche géologique, soit construire un monument d'intérêt public, il devra indemniser tout le village pour déplacer ce village d'un lieu à autre en leur garantissant des conditions de vie et d'habitation adéquates.
On va accueillir Gigi Chimanga qui est à Kananga dans le Kasai Occidental. Gigi Chimanga, bonjour.
Bonjour, monsieur. Allez.
On vous écoute, Gigi.
Bon, je voudrais un peu demander à notre invité sur le plateau. J'aimerais savoir qui paie pour des plaintes ou se plaindre à la justice en cas d'utilisation d'un domaine public de l'État ou de la population locale. Par exemple, on a envahi le terrain d'un hôpital ou d'une université. Est-ce que ce sont les étudiants qui peuvent aller se plaindre ou bien la population du quartier ou une association des gens ou qui peut normalement se plaindre et contre qui? Deuxième préoccupation,
oui.
J'aimerais savoir si l'invité nous dit, avec l'état actuel de notre justice, pensez-vous que ceux qui envahissent les terrains, les domaines publics de l'État sont puissamment forts en matière d'argent? Pense-t-il que l'État peut s'en sortir?
Merci, Gigi Chimanga. Vous êtes à Kananga, dans le Kasai Occidental. Maître Kabingi.
Merci beaucoup. Notre auditeur est très intéressant. On sait qu'il dit qui peut se plaindre. Cela dépend. Lorsque on empiète sur la voie publique, donc un service public, il faudrait savoir que le service public est géré selon quelle structure. Si c'est une structure dotée de la personnalité civile, c'est les dirigeants de ces services-là qui ont qualité non seulement de porter plainte, mais d'amener leurs demandes devant le juge pour que le juge examine les prétentions de ce service-là par rapport aux prétentions de celui qui a empiété. Alors, si c'est un service dépourvu de personnalité civile, on devrait voir ce service-là relève de quelle autorité de tutelle. Si c'est la tutelle du ministère de la Justice, le ministère de la Justice devrait s'assumer. Si c'est la tutelle du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Santé, comme le cas de l'hôpital, le ministère de la Santé devra pouvoir mettre en mouvement ses prétentions pour que le juge puisse trancher. Il n'appartient pas à la population parce que la population, on va opposer à la population les défauts de qualité. Avec notre justice et les occupants actuels des immeubles de l'État, c'est un problème qui pourra un jour être résolu, soit autour des dialogues ou des débats, parce qu'effectivement, actuellement, l'État est victime des spoliations de ces immeubles. Les grands possédants, les détenteurs de pouvoir, se sont accaparés des immeubles, des espaces de l'État. Et aujourd'hui, l'État n'a presque plus de territoires, d'espaces de jeu pour les enfants. Et nous pensons qu'un jour ou un autre, notre justice recouvrant l'indépendance par rapport à d'autres institutions de la République pourra dire le droit pour que l'État revienne dans ses droits par rapport à ces immeubles spoliés.
Maître Kabingela Ilunga, vous êtes avocat au barreau de Matete. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous étiez notre invité pour aborder cette question de que dit la loi congolaise à propos des constructions anarchiques. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.